Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
C'est bon. On part de la canne qui est récoltée, en ce qui nous concerne, tous les jours, à la main. Elle est broyée immédiatement. Ce jus obtenu, nous le mettons en fermentation donc dans ces cuves qui sont ici. Après quelques jours, ce jus de canne, qu'on appelle ici le vézou, se transformera donc en vin de canne. Et là, il sera mis en cuisson pour démarrer le processus de distillation, donc à travers cet alambic qu'on appelle une cucurbite aussi en cognacais. Et donc, ce distillat arrivera dans cette troisième cuve que vous voyez en cuivre, dans un serpentin qui, au contact de l'eau froide, va condenser ce qu'il contient. Et donc, ce distillat va se liquéfier et va couler. Et ce sera donc le rhum de notre production.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster blanc ou ambré, flambé ou arrangé, de style français, espagnol ou anglais. Tous les chemins dont on va déguster mènent au rhum aujourd'hui. Depuis au moins une décennie, ce spiritueux a le vent dans les voiles, chez les cavistes, les sommeliers, sur la scène cocktail, dans la cuisine, dans la pâtisserie. Alors certes, rhum égale alcool fort, et on ne saurait trop vous recommander, amis auditeurs, de le consommer en compagnie de notre ami Modération. Mais on va voir qu'une seule goutte de rhum suffit à vous ouvrir un monde, un continent, un patrimoine. Et c'est ce monde du rhum que l'on explore avec notre invité du jour, Fabien Humbert. Bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Vous êtes spécialiste des vins et des spiritueux, journaliste pour la Revue du Vin de France. Et c'est une sacrée somme que vous publiez aux éditions Hachette, autant dire un livre de référence, Rhum. Une encyclopédie d'un peu moins de 300 pages, très documentée, richement illustrée. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire de bout en bout. Et vous allez nous faire goûter quelques-unes de vos cuvées préférées. On va décrypter également avec vous, Fabien, le nouveau visage de cet alcool, hein, puisque il y a une vraie révolution Rhum en ce moment.
Oui, c'est vraiment une vraie révolution avec plein de types de rhum qui sont en train de
d'émerger.
Et il y a aussi les anciens rhums qui sont toujours là, les rhums qu'on connaît bien,
c'est
les rhums agricoles de Guadeloupe, de Martinique, etc. Donc c'est une scène en pleine ébullition.
Absolument, et on va voir ça avec vous. On va aussi vous faire découvrir, chers auditeurs, un nouveau rhum artisanal et éthique distillé en Martinique qui répond au nom de A1710. Vous découvrirez notre reportage aux Antilles dans le courant de cette émission. Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui, j'annonce Manon Fleury, Antoine Gervel, Mathieu Conquet. Bonjour les copains.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ça va bien.
Le rhum, hein, ouais. 11h du matin, ça va toujours.
Grog au menu dont on va déguster Manon aujourd'hui.
Bonjour. Je vais vous parler d'une douceur à base de rhum,
oui.
Mais qui est en fait un peu une dure à cuire.
Oui, j'ai ma petite idée. D'ailleurs, il trône sur le plateau dont on va déguster Antoine.
Eh ben moi, je suis comme Dutronc, je suis un aventurier, j'ai beaucoup voyagé, ouais. Des Philippines à la Martinique, et je me suis arrêté rue du Faubourg Saint-Denis, puisqu'on distille du rhum aussi à Paris, et on va en parler.
Les nouvelles routes du rhum explorées par Antoine Gerbel, et puis Mathieu Conquet, ses accords mets et musique qu'il mitonnait il y a un an lors de nos émissions du premier confinement, eh bien ces accords nous avaient manqué. On est ravis de vous retrouver, Mathieu.
Eh mais tout pareil également.
Alors, au menu aujourd'hui?
Au menu, deux perles rares de Martinique, côté musique et puis côté alcool, vrai, il y aura un cocktail, une recette. Ce
bien
sera
sûr,
gourmand.
Évidemment, puisque Mathieu est également un des messieurs musique de France Inter, mais ça, tout le monde le savait. Pour interagir dans cette émission en direct, envoyez-nous un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. L'émission est réalisée par Laurent Thomas en direct avec Benjamin Troncin derrière la console, Nadia Chougui pour la préparation, Djoubaka pour la programmation musicale. Nos infos sur le rhum ainsi que les podcasts de toutes nos émissions et de toutes nos chroniques vous attendent sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
À la fin du siècle dernier, alors je parle du 20e, hein, il n'est pas si loin, c'était un peu ambiance triste tropique pour le rhum des ventes en berne, une image vieillotte d'alcool de grand-mère ou un côté mauvais alcool de soirée étudiante. Genre rhum coca, ça doit rappeler des souvenirs
à, tête, ouais.
À certains autour de ce plateau. Quelques décennies plus tard, changement de décor, on assiste à une renaissance impressionnante de ce spiritueux qui a désormais des chiffres de consommation à la hausse, le whisky n'a qu'à bien se tenir, ses événements et ses salons dédiés, de nouveaux artisans et une toute nouvelle littérature. Fabien Humbert, votre livre qui est dense, imposant et l'illustration de cette nouvelle tendance rome. D'ailleurs, dans la préface de votre livre signé Alexandre Vintier, le cofondateur et rédacteur de Rome Porteur.
C'est ça, auquel je collabore aussi. Ouais.
Auquel vous collaborez aussi. On peut lire cette phrase. Le rhum est le spiritueux des années 2010 et probablement aussi celui des années 2020. Alors comment expliquez-vous, Fabien, l'incroyable retour en grâce du rhum?
Déjà quelques chiffres. Donc le whisky en France, ça ferait 40% des ventes de spiritueux. Après il y a les anisés, environ 20%. Et le rhum, c'est 10%, mais c'est en augmentation constante. Donc là, on va plutôt vers les 11%. Et même l'année dernière, 2020, avec le Covid, etc., les ventes sont en hausse. Donc ça veut dire que c'est, il y a vraiment une vraie vague. Ensuite, pourquoi? Bon, en fait, ça vient pour moi plutôt de l'étranger. C'est-à-dire, ça vient de deux Roms, Diplomatico et Dom Papa, qui ont amené aux Roms des nouveaux publics plus jeunes, plus féminins, parce que c'est facile d'accès, c'est sucré. Enfin, en tout cas, on a une impression de sucrosité.
Resituez-nous Diplomatico et Dom Papa.
Alors, Diplomatico, c'est au Venezuela, Dom Papa, c'est aux Philippines.
Oui.
Donc c'est complètement différent. Hein. C'est pas mal. C'est donc, comme je l'ai dit, assez facile à boire. Et donc du coup, ça a poussé les rhums français, notamment, à monter en gamme et à devenir encore meilleurs. Il y a aussi des gens qui venaient du whisky, mm-hmm, qui se sont rendus compte qu'en fait, le rhum, il y avait des très bons rhums vieux à des prix abordables. Et ça, parce que le whisky, c'est en train de monter les prix, ça devient vraiment difficile. Donc voilà, et puis donc tout le travail fait par les maisons de rhum, quoi, qualité.
Très bien, alors vous expliquez évidemment avec du rhum qui vient des Philippines, d'Amérique du Sud, on va le voir également aux Antilles françaises, il y a un bouillonnement tout à fait important, donc la scène rhum est carrément mondiale. Est-ce que cela signifie qu'il existe une législation unifiée du rhum? Ou il faut quand même se méfier encore quand on lit les étiquettes? Pour être plus clair, est-ce qu'on pourrait avoir une définition à peu près simple du rhum, alors que ces visages sont effectivement très différents?
Voilà, ce qui est sympa avec le rhum, c'est que c'est un univers très diversifié, mm-hmm, mais du coup, pour les consommateurs, parfois, c'est compliqué. Alors du coup, il y a la législation européenne, donc qui s'applique en France. Donc le rhum, c'est un alcool élaboré à partir de canne à sucre. Voilà, donc ça, c'est la base. Ça ne peut pas être du sucre de canne, par exemple. Ça doit être distillé au-dessus de 37,5 degrés. Mmh. Il ne doit pas avoir d'ajout d'arôme et aussi 20 grammes de sucre par litre d'alcool ajouté maximum.
D'accord. Donc on peut quand même ajouter du sucre au rhum.
Un petit peu.
Et ça reste du rhum pour la législation européenne.
Oui, mais ailleurs, c'est différent.
D'accord. Je crois même qu'on peut ajouter aussi un peu de caramel.
Un peu de caramel pour la couleur, mais ça ne doit pas donner du goût.
Absolument. Ouais, lire une étiquette de rhum, ça reste quand même assez un vrai casse-tête. Parfois, on trouve sur certaines bouteilles boissons spiritueuses à base de rhum.
Ouais, ça veut dire qu'en fait, il a été ajouté des épices. Pour le rhum arrangé, il y a sûrement marqué boisson spiritueuse à base de rhum. Tout le monde pense que c'est un rhum. D'ailleurs, c'est quelque part un rhum. Par exemple, pour les rhums épicés, c'est pareil. Ou les rhums qui ont été un peu trop édulcorés, donc dans lesquels on a rajouté un peu trop de sucre. Voilà.
Très bien, parfait. Eh bien écoutez, pour l'instant, ça reste très clair, ça va peut-être se complexifier un peu évidemment.
Oui.
Essayons de dresser schématiquement une typologie du rhum pour essayer de pénétrer dans cette terra incognita qui est le rhum, évidemment, avec tous ses aspects, à la fois ses couleurs, ses styles, ses influences géographiques différentes. Comment simplement on pourrait essayer de hiérarchiser les différents rhums du marché?
Alors en fait, il y a une dichotomie qui est très présente dans le monde, qu'on connaît un peu moins ici, c'est rhum agricole, ou de pur jus de canne, et rhum de mélasse, ou de sucrerie.
D'accord.
Nous, en France, on connaît surtout le rhum agricole, en fait. Donc le rhum agricole, c'est du rhum qui a été fait à partir de la canne à sucre qu'on a broyée. On en fait donc un jus, ensuite qu'on fait fermenter,
c'est ça,
qu'on met directement dans un alambic. Paf, il y a du rhum qui sort à la fin, parce qu'il est distillé. La mélasse...
Est-ce qu'il est forcément blanc, le rhum agricole?
Tous les rhums sont blancs au départ. Ça, c'est vrai qu'il y a une dichotomie, donc rhum blanc et rhum ambré.
Absolument. Et on va voir ensuite comment il prend de la couleur, tout à fait.
Voilà.
Mais effectivement, le rhum agricole est blanc au départ. Ensuite, on va voir qu'il peut subir effectivement un affinage, un vieillissement.
Voilà, un vieillissement dans des fûts. Donc, ça va prendre de la couleur parce que le rhum agit comme un solvant qui va décrocher des tanins, des choses comme ça. Mais il peut aussi vieillir en cuve inox.
Mm-hmm.
Et là, à ce moment-là, il est maturé, vieilli. Par contre, il prend pas de couleur.
D'accord. Il peut prendre une petite couleur un peu...
Oui, mais alors après, on peut le filtrer.
C'est donc, ça.
Par exemple, il y a des rhums comme Bacardi ou Havana Club. 3 ans, vous verrez qu'ils sont, ils sont blancs. Parce qu'on les a fait vieillir et ensuite, on les a filtrés pour qu'ils reprennent leur couleur blanche.
Donc, le rhum agricole, ce serait presque une exception française, c'est-à-dire un rhum distillé directement à partir du jus de canne. C'est-à-dire qu'on prend la canne, on presse, on obtient ce qu'on appelle d'ailleurs le vésou, un jus de canne que l'on fait fermenter. Et ensuite, ça, c'est la matière première qui va être distillée pour obtenir ce rhum agricole.
C'est ça. Et en fait, agricole, c'est une appellation qui peut être utilisée que pour les rhums d'Europe, donc des Dômes et de Madère. Ah. Et partout ailleurs, ça peut pas être du rhum agricole, c'est du rhum de pur jus de canne.
D'accord. Voilà. Et ensuite, ça, on le distingue d'un autre rhum qui est issu, non pas du jus de canne, mais de... mélasse. Alors, Manon nous a apporté une espèce de mélasse que vous avez trouvée, j'imagine, en magasin bio.
Oui, c'est là où on la trouve. On la trouve très facilement en magasin bio.
Parce que vous, vous en servez en cuisine?
Je m'en sers en cuisine pour remplacer le sucre. Ouais. En fait, on peut l'utiliser dans des yaourts, dans des gâteaux. Voilà, c'est comme une alternative au sucre. Et c'est un côté très ambré, caramélisé.
Même avec des notes de réglisse et d'épices aussi.
Ouais, c'est assez réglissé. Ça peut déranger certaines personnes, mais moi, je trouve que c'est super intéressant. Notamment dans la, ça vient souvent dans la recette de pain d'épices. Moi, j'utilise souvent dans les pains d'épices.
Bonne idée.
Et donc ça donne cette couleur naturelle ambrée assez agréable.
Et comment on obtient justement cette mélasse qui va être la matière première de l'autre famille des rhums, les rhums de mélasse?
Alors les rhums de mélasse, donc c'est à peu près 90% du marché, hein, on s'en rend pas compte, mais à l'international. En France, c'est plutôt 80% le rhum, de nos Dômes en fait. Mm-hmm. Donc alors on l'obtient en faisant chauffer donc ce jus, ce vesou, on va le faire chauffer pour extraire, enfin bon. En fait, on fait du sucre. Donc la fabrication du sucre, on le fait chauffer, on enlève l'humidité, etc. D'un côté, il y a le sucre qui sort, le sucre de canne.
Donc là, qui est vraiment la partie solide.
Voilà, donc c'est
qui va se transformer. Enfin, c'est du sucre de canne.
Voilà, c'est pourquoi finalement on a planté de la canne au départ dans les Caraïbes. Et de l'autre côté, il y a la mélasse qui sort. Donc comme l'a dit Manon, c'est vrai que c'est un peu sirupeux, c'est marron, c'est un peu bizarre.
Bon. C'est un peu pétroleux.
Voilà, c'est ça. Bon.
Goudronneux.
Oui, voilà, mais bon, ça sent bon, quoi. Ça sent le réglisse, effectivement. Et ça, alors, on va en rajouter de l'eau. Et on va mettre des levures, on va le faire fermenter. Et c'est ça, ensuite, qu'on va distiller pour faire le rhum de mélasse. Donc le rhum le plus vendu et consommé dans le monde.
Très bien. Allez, vous nous faites goûter un tout premier rhum. Vous choisissez, vous avez le choix.
Alors, donc dans le premier verre, c'est du rhum cubain, oui. Qui s'appelle Mulata. C'est un rhum de mélasse.
D'accord.
Donc c'est celui-là. Hein.
Alors là, ce qui est important, c'est qu'on a affaire à un vin tulipe.
Oui, c'est un verre tulipe, c'est mieux quand même pour déguster. Là, comme c'est des arômes pas évidentes, j'ai mis ce rhum dans le verre tulipe. Bon.
La première sensation, c'est que ça sent pas l'alcool.
Ça sent pas
l'alcool. Non, mais ça sent, c'est vrai que c'est neutre, mais déjà, c'est pas agressif.
À consommer avec modération.
Oui, on n'a pas l'impression de faire une autre vie.
Je ne l'ai pas mis encore en bouche, mais je dis, voilà, c'est.
Petit conseil
accessible.
De dégustation, quand on déguste du rhum, il faut vraiment mettre une micro-goutte sur la langue, on n'a pas besoin de plus. Pas la peine de. Après, c'est vraiment. Trop dur pour le palais, les papilles, ça explose. Bon.
Et pour goûter, c'est vrai que là, on peut tremper à peine les lèvres et on a déjà un monde d'une amplitude incroyable, surtout pour les bons rhums, dans la cavité buccale, qui est vraiment dingue.
Oui, ouais, alors là, bon, on sent un petit peu les réglis, je trouve, c'est assez rond, même c'est un peu soyeux en bouche, etc. Après, moi, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'arômes.
Oui.
Et si on veut faire, par exemple, la différence avec le jus de rhum agricole tout de suite, un long taux, donc 55 degrés.
Alors là, on est où?
Là, on est en Guadeloupe. Déjà, rien qu'aux arômes.
Au nez, déjà.
Quelle fraîcheur. Non, mais on change de monde, là.
La canne à sucre vient de rentrer dans la pièce. Oui. C'est-à-dire qu'on a d'un seul coup ce sucre qu'on connaît au quotidien qui vient.
Il a un côté assez champ aussi.
Truc d'agrumes aussi,
un bon nez.
Mathieu a raison. Moi, je sens des notes agrumées, une fraîcheur.
Oui. C'est très fruité, en fait. On a tout de suite le fruit au nez. Moi, je trouve qu'on a tout de suite le fruit, la fraîcheur de la canne à sucre broyée.
C'est ça.
C'est hyper bon.
Ça y est.
Ouais, il a fini son verre déjà.
Est-ce qu'on pourrait dire, caricaturer, que les rhums de mélasse sont davantage flatteurs, peut-être plus sur la rondeur, et là on ne parle que de rhum blanc, hein. On n'a pas encore parlé de rhum vieux, alors que effectivement les rhums de jus de canne sont davantage sur ce goût de canne à sucre,
oui,
avec cette fraîcheur presque herbacée, parfois un peu citronnée.
Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, à la dégustation pure du rhum blanc, je préfère, donc je recommande même le rhum agricole, alors que dans le rhum vieux, finalement, il y a match. Les deux sont aussi bons. Y a pas de. Enfin, après, ça dépend des gens, hein, mais.
Très bien. Dans un instant, de toute façon, on poursuit pendant toute cette émission notre voyage dans le monde du rhum. Dans un instant, je vous emmène en voyage à la Martinique, à la découverte d'un nouveau rhum artisanal et biologique. Il est distillé à l'habitation du Simon, situé au sud-est de cette île des Antilles françaises, et son nom de baptême est A. 1710, une nouvelle marque qui fait parler d'elle dans le petit monde des spiritueux. On part à la rencontre de son fondateur Yves Assier de Pompignan juste après un petit détour musical dans l'île voisine, la Guadeloupe, avec Delgrès et son blues créole Assez Assez. C'est choisi par Djoubaka. Bon voyage sur France Inter.
Nous sommes à l'habitation du Simon, alors ça se situe sur la côte atlantique, donc la côte est de la Martinique, au sud, entre deux communes qu'on appelle le François et le Vauclin, et nous sommes face à la mer et face aux fameux îlets qui sont connus pour leur balade et leurs bains et leurs fonds coralliens qui sont juste en face de nous là-bas.
La canne est cultivée tout autour ?
Oui, alors la canne est cultivée tout autour. Nous avons des parcelles autour de chez nous, ici, qui sont labellisées bio. Nous ne sommes à l'heure actuelle que deux marques martiniquaises, et d'ailleurs, je crois, dans le monde, en tout cas avec les labels européens, à proposer des cuvées bio.
Est-ce à dire que c'est compliqué de cultiver la canne à sucre en agriculture biologique ?
C'est pas compliqué. Je dirais ce que les produits chimiques enlèvent, la nature le redonne. Il ne faut pas oublier que la canne est une herbe. Donc on met du désherbant, on empêche les mauvaises herbes de pousser, mais on freine la croissance de la canne aussi, et on aura finalement un tonnage à l'hectare qui sera moins important. Lorsqu'on ne met pas de désherbant, évidemment, il faut chasser les mauvaises herbes, mais après ça, la canne, elle n'est pas freinée dans sa croissance et elle est beaucoup plus belle. Alors nous avons des mulets qui viennent d'Ardèche, puisque c'était un compagnon de l'agriculteur martiniquais pendant des années et des siècles. Maintenant, ça tend à disparaître, donc ils nous aident aussi dans les travaux agricoles. Et évidemment, leur crottin est semé joyeusement dans les champs de canne bio. Voilà.
Et les cannes aiment ça.
Et les cannes aiment ça.
Yves Assier de Pompignan, au micro de France Inter, c'est le créateur de A1710. Alors, c'est une nouvelle marque de rhum qui se fait une place au soleil de la Martinique, où le marché, quand même, Fabien Imbert en Martinique, est assez dominé par des grandes maisons. Alors, c'est Clément, Saint-James, Trois-Rivières.
Ouais, c'est ça.
Mais il y a quand même une vraie belle dynamique vers des rhums plus artisanaux. Et A1710, on en entend aussi pas mal parler, notamment en métropole, hein, Mathieu.
Ah oui, il est excellent. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a une histoire de famille en fait qui se cache derrière ça, puisque une histoire de famille qui vont pas forcément dans la même direction. Hein. Le père d'Yvassier de Pompignan, qu'on vient d'entendre, là, lui travaillait, son père donc, pour la CTCS, le Centre Technique de Canne et du Sucre. Donc lui, il cherchait à améliorer le rendement de la canne et son rendement. Et finalement, son fils, au contraire, ne cherche pas le rendement, mais vraiment la qualité. Donc c'est drôle.
Ouais. On est dans presque un conflit de génération, mais
ça se passe bien.
On est dans une évolution et ça se passe bien absolument. Alors l'origine de ce nom à 710, parce que il y a déjà des auditeurs qui nous posent la question. A comme bah, acier, évidemment, A2SIER, ouais. C'est le patronyme du fondateur. A comme artisan également. Et 1710, c'est quand même la date de l'arrivée de la famille Acier à la Martinique. Voilà, preuve que de nouveaux acteurs veulent se distinguer par l'artisanat et le respect du terroir. Dans un univers, Fabien Humbert, où le rhum est quand même devenu un alcool mondialisé, issu pour l'essentiel d'une monoculture qu'on peut imaginer impactante, la canne à sucre, avec des traitements phytosanitaires, surtout sous climat tropical. Même si vous écrivez dans votre livre que le rhum est plutôt bon élève, expliquez-nous.
Oui, alors déjà, c'est sous les tropiques, donc évidemment, il y a beaucoup de mauvaises herbes, il y a beaucoup
de maladies,
il y a plein de petits animaux, d'insectes, etc. Mais en tout cas, dans l'Union européenne, ils arrivent quand même à utiliser quasiment pas de fongicides, quasiment pas d'insecticides, etc. Le seul gros problème, c'est les mauvaises herbes entre les rangs donc de canne à sucre. Et là, ils n'ont pas encore vraiment de solution, à part le travail humain, c'est-à-dire vraiment aller sur place et puis enlever à la main quasiment les mauvaises herbes. Donc ça freine un petit peu l'arrivée du bio dans le rhum, mais ça y est, donc il y a 1710, il y a Naisson depuis longtemps, Bologne en Guadeloupe, Saint-James, la grande maison Martinique, ouais. Ça y est, là, ils ont aussi leur propre cuvée. Il y a aussi des rhums équitables, donc les rhums fer, F-A-I-R, voilà, donc en fait c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'importance, l'éthique, etc. Et c'est quand même... Bon, c'est une monoculture, donc c'est vrai que dans certains pays on balance des pesticides, etc. Voilà, c'est sûr. On peut détruire la forêt amazonienne pour planter la canne à sucre. Mais aussi, sous nos latitudes, c'est aussi un piège à carbone, par exemple la canne. Par exemple, la bagasse, donc ce qu'on enlève quand on a broyé la canne. Donc il y a le vesou qui sort d'un côté et la bagasse,
c'est les résidus.
Voilà, c'est ça. On peut le brûler.
Les résidus de broyage.
Ouais. On peut le brûler pour faire de l'énergie. On peut le mettre dans les champs pour les protéger. Les vinasses, donc ce qu'on n'utilise pas à la distillation, on peut aussi les mettre dans les champs, etc. Donc finalement, c'est assez, c'est vraiment pas mal au niveau du développement durable, le rhum.
C'est ça, et vous expliquez par ailleurs que la canne à sucre est une graminée qui sert de puits à carbone. Vous donnez ce chiffre étonnant à la Martinique. Les 3000 hectares plantés de canne à sucre fixent 25% du CO2 émis par les voitures de l'île.
Oui.
Manon.
Et j'ai entendu parler du fait que la canne à sucre entrait dans l'alimentation des porcs aussi, qu'on se servait de ce résidu de canne à sucre broyé, en fait, pour le donner après aux animaux.
La mélasse aussi peut être utilisée, ouais. Vous avez raison, la canne à sucre, la mélasse, la bagasse, etc., tout ça, ça peut être utilisé.
On peut aussi chauffer avec les résidus, bien évidemment, de la canne, puisque le circuit parfait, c'est non pas comme, malheureusement, on m'a appris en Asie, par exemple, des résidus de vêtements, les grandes marques de vêtements qui
permettent
fabriquent,
de chauffer les distilleries.
Et donc, ça dégage de très mauvaises fumées. Et donc, quand on a un regard écologique, on utilise les résidus, bien évidemment, de la canne.
Exactement. Merci Antoine Gerbel pour cette précision. C'est vrai que ça peut devenir, par conséquent, une économie un peu plus circulaire d'année en année. On est sur la canne à sucre, on y reste, puisque j'ai eu la chance de visiter cette habitation du Simon lors de la récolte 2020 des cannes à sucre. Ça se passait en février dernier. Yvassier m'emmène faire un tour dans ses champs de canne pour une séance, de travaux manuels.
Alors là, il s'agit d'une canne bleue. Je dis qu'elle est bleue, mais là, il y a une canne rouge, en fait. La canne bleue, elle est là, et en fait, quand on va se reculer un petit peu, vous allez voir que la feuille de la canne bleue est un vert beaucoup plus dense. Donc, on l'appelle bleue à cause de son feuillage.
Pas du tout à cause de la couleur de la canne.
Non, et qui de loin donne des effets un peu bleutés. Voilà.
Je m'appelle Sylvain Brafin, je suis agent d'entretien polyvalent à l'habitation du Simon.
Et ça vous arrive aussi de couper la canne?
Tout à fait.
Donc là, vous avez coupé vraiment tout au bas de la tige.
Oui.
Et vous avez coupé également le feuillage là-haut.
Parce que, en fait, le sucre, il est généralement plus au pied de la canne.
Vous êtes équipé on n'appelle pas ça une machette ici?
Non, on appelle ça un coutelas, aux Antilles.
Et ensuite, il va être apporté comme ça pour la transformation ou il va être encore coupé?
En deux. Mais en général, on enlève la paille pour qu'on n'ait que la canne. Et la paille reste dans le champ pour empêcher l'herbe de pousser. On l'étale un peu partout.
Là, vous êtes en train de l'éplucher.
Exact. Je vais vous donner à goûter, la canne.
Oh là là. Presque un goût de caramel.
Il y a du sucre dedans.
Il y a beaucoup de sucre, là.
Oui. Une bonne canne, en général, c'est une canne qui a pris du soleil. Et tout le sucre est monté dedans.
Merci.
De rien.
Être bio, c'est pas seulement cultiver bio, c'est aussi transformer bio. Tout ce que vous voyez ici, du broyage, de la coupe, jusqu'à la mise en bouteille aussi, c'est pas simplement la culture de la canne. Pour que le rhum soit bio, il faut que sa matière première soit bio, mais également le processus de transformation et fabrication.
Vous êtes sur un alcool totalement naturel.
Absolument, absolument.
Depuis le champ jusqu'au chai.
Jusqu'au chai, jusqu'à la mise en bouteille. Voilà, on arrive à la fin du broyage, vous voyez. La canne est arrivée tout à l'heure de la coupe. Et donc, elle est mise au moulin où elle est broyée. Le jus coule, il est récupéré dans un petit bac, il est pompé là. Et il sera ramené tout à l'heure vers la rubrique pour être mis en fermentation. L'avantage de la coupe à la main, c'est que la canne, elle est propre. Il n'y a pas de feuilles. Donc le jus qui sort est un vrai jus de canne.
De couleur assez claire.
Alors ça dépend des variétés de canne, ça peut aller du vert au marron kaki, quoi. Il va sortir du moulin de l'autre côté, là. C'est la bagasse. C'est le résidu du broyage. Nous pratiquons une pression unique, comme les huiles d'olive. Vous voyez, la bagasse est encore humide.
Ah ouais.
Pour certains, ça gâche un peu, mais en même temps, ça garantit d'avoir un jus d'excellente qualité et qui ne soit pas avec des particules dedans. Voilà. Tous nos déchets sont recyclés ici. Donc la bagasse est recyclée pour faire du compost. Et sinon, le résidu de la distillation, ce qu'on appelle la vinasse, c'est-à-dire la partie du vin qui n'a pas l'alcool, sera recyclé également pour des engrais bio. C'est un cercle vertueux avec tout revient à la canne. La coupe et le broyage sont finis pour aujourd'hui.
Et le délai entre ce jus fraîchement pressé et sa transformation est très rapide.
10 minutes. Et ça, c'est le secret. C'est le secret de notre production, parce que c'est ces étapes extrêmement courtes entre les différentes phases qui fait qu'il n'y a pas de risque pour les matières premières de tourner, de s'oxyder, de fermenter de mauvaise manière. Il faut que la fermentation soit organisée et non pas subie. Voilà.
Tout le monde a visiblement vécu l'expérience de croquer dans une canne à sucre fraîche autour de ce plateau. Moi, j'avoue que c'était presque une première. C'est incroyable, hein. Des goûts de caramel, un goût de sucre pur.
Tout y est, en fait.
C'est plus agréable que de croquer une betterave, hein.
C'est sûr.
Ça fait les dents aussi, hein. Il faut avoir les dents solides, hein, quand même, hein.
Ouais. Voilà. On prend le risque de perdre quelques ratiches.
Non, ça les renforce.
Au passage, évidemment. Alors, évidemment, la canne à sucre fait partie du paysage des Caraïbes et d'Amérique du Sud, de Cuba, etc. depuis des siècles. On oublie peut-être un peu trop rapidement que cette graminée n'est pas du tout originaire de cette aire géographique, Fabien Hamer.
Ça vient d'Indonésie, en fait, et ça fait un long voyage au fil des siècles. Donc, d'Indonésie, c'est allé, on pense, hein, vers la Chine, l'Inde. Ensuite, l'Empire perse, donc Alexandre le Grand. Ensuite, les conquérants arabes, donc qui vont en Perse et qui la rapportent. Ensuite, les conquérants arabes viennent en Europe, et là, on commence à utiliser la canne en Europe. D'Europe, avec la colonisation et Christophe Colomb, hop, ça arrive aux Caraïbes. Et ensuite en Amérique du Sud.
C'est ça. Et Christophe Colomb a, si je lis bien vos écrits, a emporté dans son voyage vers ce qu'il considérait les Indes.
Le deuxième voyage,
des plants qui étaient cultivés aux Canaries, car on cultivait déjà la canne à sucre aux Canaries depuis bien longtemps.
On en cultivait en Sicile, dans le sud de l'Espagne aussi.
C'est ça. Ce roseau, qui donne du miel sans le concours des abeilles. Ouais, c'était la définition qu'on donnait de la canne à sucre à l'époque d'Alexandre le Grand. Preuve que la canne à sucre est désormais une culture mondialisée. On peut faire du rhum partout, y compris dans des endroits très insolites. On emprunte avec Antoine Gerbel les nouvelles routes du rhum.
On va déguster sur France Inter.
Alors oui, moi j'ai beaucoup voyagé, j'aime beaucoup ça, très souvent près des pieds de vigne, c'est vrai, j'aime les pieds de vigne, mais j'ai rencontré aussi beaucoup d'autres produits qu'on distille, et notamment la canne à sucre. Alors la Martinique, c'est un très beau voyage, je le conseille vraiment, dès que les avions vont pouvoir repartir, il faut aller visiter en plus le no-tourisme, remotourisme, je sais pas comment on dit.
Spiritourisme spirituel.
Et vraiment très bien fait, il y a de magnifiques plantations à visiter. J'étais aux Philippines, et j'ouvre une petite parenthèse sur les Philippines, parce que j'ai été voir le diable. Les Philippines, pourtant c'est pas la Tasmanie, mais il y a un diable, parce que tu l'as évoqué, Dom Fabien, Papa. C'est Dom Papa. Ce rhum ou pas rhum arrangé qui fait un carton dans le monde entier, qui est inventé par un Anglais francophone qui a longtemps géré le cognac, Rémy Martin aux États-Unis. C'est lui qui a implanté le cognac dans la communauté noire américaine et surtout chez les rappeurs. Et il est revenu avec cette petite histoire en se disant, mais comment je pourrais parler, toujours son obsession, à une nouvelle génération. Et puis il a observé que quand même tous ces jeunes qui boivent du vodka Red Bull, avec ce côté il faut peut-être les amener sur autre chose. Alors c'est vrai, c'est pas puriste du tout. C'est pas le côté tranchant qu'on aime beaucoup dans nos rhums agricoles des Caraïbes. C'est plutôt rond, c'est velouté, c'est sucré.
Alors, c'est flatteur pour faire court.
C'est flatteur. Il y a de la vanille, il y a du glycérol, il y a plein de petites choses qui sont tolérées. Tout ça, attention, ça ne nous empoisonne pas. Ce qui empoisonne dans tout ça, c'est l'alcool, rappelons-le. Hein. Oui. Le mal de tête, c'est pas le soufre, je le dis toujours, c'est l'alcool. Donc, modération. Mais ça amène quand même un nouveau public sur ce terrain-là. Et aux Philippines, on découvre que tout est sucré. Et donc, nous, notre goût un peu des alcools un peu secs, parce que la tradition, c'est plutôt le cognac, l'armagnac, ben, c'est très français, très européen.
Ou la grappa italienne.
Ou la grappa italienne, exactement. Or, si on est en Amérique centrale, si on est en Asie, eh bien, ce sucre est partout. Et ce sucre, moi, je l'ai retrouvé aussi dans cette nouvelle génération, ce qu'on appelle les rums offshore. Alors c'est le fameux Nicolas Jules qui m'a soufflé cette définition. Le rhum offshore, bah imaginez comme on vient de le dire, la mélasse se transforme très très bien, se déplace très très bien, et donc on peut être partout dans le monde, que ce soit à New York, à Paris ou dans le Cantal, et faire son propre rhum. C'est pour ça que les marques explosent, c'est pour ça qu'aussi, comme on utilise des codes marketing, un peu de tendance, ça fonctionne plutôt bien. Et moi je me suis arrêté à Paris, Faubourg Saint-Denis, dans la fameuse épicerie de Nicolas Jules. Et j'ai rencontré là-bas, bien évidemment, on sait, un personnage incroyable qui maîtrise l'histoire de la distillation. Et il m'a fait goûter trois rhums que je vous ai amenés. Trois petits rhums qui s'appellent, petits par la taille, la bouteille. Le premier s'appelle rhum ambré. Donc ça, on imagine tout à fait. Donc ça, c'est à partir, si je ne me trompe pas, le rhum ambré, c'est de la mélasse. Mmh. Il travaille. Après, il y a Petite Marie. Petite Marie, alors là, c'est très intéressant, c'est pas la chanson de Cabrel, hein. Non, c'est Marie Galante, bien évidemment. Et là, c'est à base de sirop batterie, comme on dit en créole, qu'il fait venir. Et enfin, le dernier que je trouve très intéressant s'appelle Panela. Alors, Panela, c'est un sucre issu de canne fraîche, donc le vésou, qui est chauffé. Et donc, qui peut encore transporter, qui peut amener dans le 10e arrondissement à Paris et qui distille très longuement. Alors bon, c'est un distillateur vraiment un peu génial. Il sait ce que c'est que le temps veut dire, parce que dans la distillation, c'est très important. Il y a beaucoup de rhums qui sont quand même faits très, très rapidement. Et donc voilà, on fait de l'alcool. Il faut aller chercher vraiment la quintessence de ces produits. Alors voilà, ça raconte ça. Le rhum, c'est une boisson de pirate. Le rhum, c'est une boisson de corsaire. Donc moi, je trouve, autant je suis très à cheval sur la défense de la définition de ce qu'est un vin d'appellation d'origine, de ce qu'est ça, autant le rhum, on se dit, mais éclatez-vous tous, amusez-vous à faire du rhum, et même chez soi, puisqu'on va arriver, bien évidemment, sur le thème du typon, sur le thème de l'arrangement du rhum. Ça fait partie de sa philosophie. Alors, je voudrais ajouter une chose, c'est que on a des enfants, on est en train de faire une émission quand même qui parle d'un produit quand même dangereux à l'usage, et il y a un substitut pour les cocktails que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui s'appelle le flueur. Alors je crois que c'est
vous en avez entendu parler, Fabien?
Non, c'est Antoine qui m'en a parlé pour la première fois.
Alors c'est distillé en fin de compte avec des plantes soigneusement sélectionnées, et ça dégage des arômes de rhum, sauf que c'est 0% d'alcool. Donc quand on fait un daiquiri, les parents font un daiquiri, on peut faire un daiquiri 0% d'alcool avec les enfants en flueur. Et j'ai découvert ça dans une nouvelle adresse assez intéressante, ça s'appelle Drink & Co. C'est un très gros magasin, je crois que c'est Pernod Ricard qui est derrière ça, et c'est du côté de la gare Saint-Lazare à Paris.
Très bien, merci beaucoup Antoine. Ce qu'on pourrait appeler, c'est ce qu'on pourrait appeler des rhum craft.
Oui, c'est ça.
Des rhums qui sont distillés dans des endroits assez insolites, souvent des grandes villes d'ailleurs, puisque on observe aussi des initiatives du côté de New York, de Boston, un peu partout.
Partout en fait. Hein. C'est vrai que la mélasse est un produit très stable qu'on peut finalement importer facilement. Mm-hmm. Donc on peut se faire importer de la mélasse. On peut aussi, mais c'est tout nouveau, faire importer du jus de canne congelé. Pour faire du rhum de jus de canne, même en ville. Mmh. Et après, moi, j'ai apporté un nouveau rhum là, qui s'appelle Navi. Donc eux, et c'est quelque chose, c'est une autre tendance. Ils vont carrément acheter des rhums direct producteurs et ils vont les mélanger. Donc là, on a des rhums la Barbade, la Jamaïque, la Guadeloupe et la Martinique. Et donc ça fait une espèce d'assemblage du meilleur de deux mondes, les rhums anglais et les rhums français.
Absolument.
Donc en fait, on peut faire des choses assez divers avec le rhum.
Allez, je vous passe justement ce rhum dont on parle aujourd'hui, qu'on est allé, dont on a vu la fabrication à la Martinique à 1710. Petite dégustation à l'arraché comme pop. Ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabien Humbert ? Vous le connaissiez ?
Alors, j'ai déjà interviewé Yves Assier de Pompignan, mais j'avais jamais goûté. Et ce que je trouve intéressant, déjà, c'est qu'on peut le boire sans ajout de quoi que ce soit, d'ailleurs.
C'est ça.
Ça va pas être astringent, ça va pas attaquer trop. Il y a vraiment ces notes de fruits exotiques. On sent un petit peu l'herbe. La canne, mais pas trop. Non, vraiment, c'est très agréable. C'est une belle eau de vie, quoi.
Et vous savez qu'à l'habitation du Simon, ils ont lancé un cocktail à partir de perles rares, ce rhum blanc agricole que vous avez en main, avec du jus de canne, du miel du pays du Vauclin, mais également une touche de citron vert et de citron de gingembre. Vous savez comment ils ont intitulé ce cocktail ?
Ah non.
Yes, I can. Et comme les grands esprits se rencontrent, Mathieu Conquet, c'est justement la cuvée que vous avez choisie dans cette marque A1710, la perle rare. Et on s'est pas concerté en plus.
Non, mais c'est le hasard, mais c'est vraiment un tel bonheur. La perle, moi j'ai été qu'une fois en Martinique, et vraiment, quand vous ouvrez la bouteille, le son du bouchon que vous avez entendu tout à l'heure, imaginez que d'un coup, moi j'avais été en février-mars, et c'est le moment de la récolte, et vraiment vous passez dans les champs, et il y a cette odeur de canne qui vous prend au nez, qui vous enveloppe, qui vous prend dans ses bras, c'est vraiment ça qu'on
c'est vrai
ressent
que c'est une expérience
quand on ouvre la bouteille.
Incroyable.
C'est extraordinaire. Donc je voulais vous proposer un cocktail avec la perle rare, donc au kumquat poivré. Wow. Alors pour insister sur le côté A artisanal, pour donner une idée, pour rester dans les chiffres, A1710, ils ont une production qui cette année donnera 50 000 bouteilles. Et pour vous donner une idée, Saint James, qui sont des gros mastodontes, eux ils font 5 millions de bouteilles. Et Naisson, 300 000 bouteilles. Donc voilà, vous voyez, on n'est pas du tout dans les mêmes rapports de force. Alors ce cocktail, moi je le trouve tellement bon ce rhum, je voulais surtout pas l'altérer, mais l'accompagner avec des notes d'agrumes. Et j'ai pensé au kumquat, qui de saison, en ce moment on en trouve en France. Je me suis inspiré d'une recette de Margot Combat, elle a un bar qui s'appelle Combat à Belleville, et elle avait proposé un super gin clémentine infusé avec des feuilles et tout, j'avais trouvé ça génial, et je me suis dit tiens, je vais faire la même chose exactement avec mon rhum. Alors le rhum, je vais vous dire dans un instant avec quoi je le fais infuser, et puis le cordial, ça c'est là Margot Combat, je lui ai pris l'idée, le cordial vous allez faire votre sirop vous-même en fait avec les kumquats. Vous prenez en gros 200 grammes de kumquats, vous les coupez, vous les mettez dans un bocal, vous mettez le poids équivalent en sucre. Et puis je mets un citron dont j'enlève le jus, mais il faut qu'il y ait la peau du citron. Vous laissez macérer 24 heures, et puis au bout de 24 heures, vous allez ajouter le jus du citron et le jus d'une orange. Vous relaissez macérer 24 heures, vous faites tourner un petit peu avec une cuillère. Mm-hmm. Ensuite, vous allez filtrer, et voilà, vous avez cette bouteille, là, vous voyez, le cordial, comme ça, vous avez votre sirop.
Et en plus, vous avez choisi des kumquats made in France.
Enfin, tout à fait,
cultivés
bah oui,
in France.
Des agrumes d'origine française, des pépinières Vessières à Saint-Félieu d'Aval,
oui.
C'est près de Perpignan. Ils sont vraiment très bons. Et alors, le rhum, lui, on va le faire, je voulais pas le dénaturer vraiment, mais lui apporter une petite touche, et là, mon épouse, Marie Conquet, qui a eu une idée géniale, m'a dit « Ah, mais tout le monde va toujours sur la vanille et tout, tu devrais aller du côté du poivre et le Sichuan. » Et on a fait infuser pendant 24 heures avec du poivre de Sichuan, et vous voyez, ça donne cette couleur un peu jaunie, pas trop, hein, sinon ça a un goût trop fort. Allez-y, dégustez, vous avez chacun un verre, et ça donne ce cocktail que je vous invite cordialement à goûter.
Bravo. Et petite instant dégustation, un petit commentaire de Manon Fleury.
Je trouve que c'est super chouette et que les agrumes, c'est une super idée parce que, en fait, souvent on associe le rhum aux fruits exotiques. En fait, on n'a pas besoin de fruits exotiques forcément, et on peut utiliser des fruits de saison comme les agrumes et les kumquats. C'est vraiment la pleine saison, donc utilisez les kumquats.
Et puis il y a cette note un peu agrumée aussi, un peu pamplemousse, un peu piquante, un peu poivrée, du poivre du Sichuan.
Je ne sais jamais quoi boire au brunch. Merci Mathieu.
Non, franchement, belle initiative. Est-ce que Marie Conquet y est aussi pour quelque chose quand même, votre épouse ?
Mais bien sûr, et en plus, on
très,
a imaginé.
Très bonne cuisinière, voilà. Si l'on suit ses prouesses, notamment sur son compte Instagram.
Ah, vous aurez toutes les stories, la recette, les images, vous allez sur son compte Instagram, vous aurez tout. Mais oui, vous l'avez dit, François-Régis, on est à deux. On fait tout comme un autre duo, tiens, écoutez.
Je t'ai fait des crêpes. Oh, c'est adorable, tu les as là.
Oui.
Alors, Catherine, ce sont des crêpes sans gluten, sans sucre, sans produits laitiers.
Très bien, ben dis donc, pas facile. Ben, comment tu t'es débrouillée, qu'est-ce qui reste?
Le rhum. Ah, on va s'en fiche un coup derrière le cornet. Hey, des vrais pirates.
Vous avez reconnu ces flibustières ou pas? Catherine et Liliane, quand même.
Ouais. Hein,
pas mal. Le coup de la pâte à crêpes sans farine, ouais, sans œufs, sans lait, avec du rhum.
Bah, je vous rassure, elle n'est pas aussi simplifiée que ça, la recette que je vous propose. Enfin, je vous la propose. Non, c'est Marie. C'est mon épouse qui a eu l'idée. C'est un peu plus élaboré. C'est le bao rhum de Marie. Vous savez, le bao, c'est cette recette moelleuse qui vient d'Asie. Hein. C'est une sorte de petite brioche cuisson vapeur. On les a fait chauffer là tout à l'heure. Je les ai apportés. Oh. Vous voyez, ils sont dans le, voilà. Je vous laisse découvrir. Hop, ils sont dans le cuisson vapeur.
Je suis obligé de prendre une photo avant.
Alors, la pâte à bao, c'est farine, sucre, bicarbonate, sel, une petite levure fraîche, une cuillère d'huile. Et puis, Marie, elle a ajouté une cuillère à café de curcuma pour la couleur jaune, et ça nous ramène à l'agrume, au tiède, un peu de rhum, et puis à l'intérieur de ce bao, une fois qu'on a fait sa pâte, on fait un petit bâton tout rond, et on a glissé des kumquats confits. Alors ça, c'est tout simple, hein, les kumquats, vous les faites cuire dans de l'eau, du sucre, avec un peu de rhum, ce fameux rhum de la perle rare. On fait des petites portions, on aplatit en cercle, on dépose le kumquat, et puis on va fermer en plissant sur les bords, sur le dessus, un peu comme une aumônière. Cuisson vapeur.
C'est complètement fou.
C'est moelleux.
Non mais c'est fou surtout, c'est délicieux.
C'est hyper bon.
Oh. Alors, avec ce cœur un peu purée, là, ce cœur confit, on ressent l'amertume légère
ça, c'est
du kumquat. Régal absolu.
Alors, en accord avec le cocktail, c'est magnifique. Hein.
Pour les gourmands, j'ai essayé la variante ce matin, on avait fait pour les enfants. Non mais attendez, il faut que vous essayiez, vous pouvez faire comme le baba au rhum, vous mettez juste une goutte de rhum dessus.
Bah voyons.
Non, vous allez voir, non mais c'est incroyable.
On
mais
pour les enfants, dans verre.
Moi, je tombe dans mon verre.
Une fois que ça a cuit,
comme
vous pouvez donner aux enfants.
Chocolaté.
Et sinon, vous mettez avec un petit peu de chocolat. J'ai goûté kumquat de chocolat, c'est à tomber par terre. C'est vraiment très très bon.
La recette est vraiment en ligne dans tous ses détails, j'espère, Mathieu.
Oui, vous avez tout ça sur le site dont on va déguster. Et puis, vous avez toute la story sur le compte Instagram de Marie Conquet, mon épouse. Et puis, on va proposer une musique pour aller avec tout ça.
Avec plaisir, on n'en attendait pas moins de vous.
On a entendu Delgrès tout à l'heure, c'était la Guadeloupe. On va aller en Martinique, hein, on respecte.
Bonne nouvelle.
Mais bien sûr, une autre perle rare, c'est un 45 tours qui vient de Martinique, qui était paru en 82. Mm-hmm. Et qu'on trouve aujourd'hui facilement dans une compilation fabuleuse qui s'appelle Digital Zandoli. C'est ce morceau qui a donné envie à Julien Achard de faire cette compilation. C'est vraiment une compilation de référence pour ceux qui veulent s'intéresser à cette musique antillaise des années 80. C'est un patrimoine injustement méconnu. Souvent, c'est les Anglais qui s'intéressent plus que nous à ce patrimoine, ce qui est quand même un comble, alors que ça a été fabriqué chez nous. Alors, l'artiste, c'est...
C'est une façon de mettre en avant nos perles oubliées.
C'est exactement. Mais là, bon, coup de bol, ça a été bien fait ici, en France. Alors, l'artiste que vous allez entendre, c'est Auréa. C'est le seul disque d'un Martiniquais, Éric Orville. Aujourd'hui, c'est un architecte très reconnu. Hein. Il a pignon sur rue. parce que je pensais à la ville de Fort-de-France.
Il a pignon sur Fort-de-France.
Voilà, exactement. Et pendant ses études à Paris, il avait composé quelques musiques. Il s'était retrouvé avec des très très bons musiciens, dont Wally Badarou, un des musiciens de Kassav, mm-hmm. un autre de La Perfecta. C'est des grands groupes antillais. C'est un peu les Earth, Wind and Fire français. Mm-hmm. Pour la petite histoire, cet unique 45 tours était déjà passé sur France Inter il y a quelques années dans une émission de Patrice Blanc-Francard. Et à l'époque, la façade lui avait valu quelques problèmes, puisqu'il y avait des auditeurs qui avaient compris les paroles, et c'était un morceau qui secoue un peu les Antillais venus de métropole. Vous avez mieux à faire que de devenir des fonctionnaires ou travailler dans l'administration. Ah. Ça s'appelait désintégration.
Ouais.
Alors, pour la paix des familles, moi, je vous propose la phase B. Et la phase B, c'est beaucoup plus dansant, mais vous allez voir, c'est dément. Begin Inferno, c'est pas encore du zouk, hein, c'est une sorte de cadence funk créole avec des synthétiseurs et des chœurs ravissants. Une perle rare.
Et à tes pépettes à qui t'es fait. chanter et tout compté qui est compté. Après chanter et déchanter, pas si senti yo il y est.
Le rhum au menu d'On va déguster. Nous sommes en direct avec Fabien Humbert, auteur d'un très très beau livre référence si vous voulez en savoir plus sur cet alcool mythique qui est le rhum aux éditions Hachette. Manon Fleury qui va prendre la parole dans un instant, Antoine Gerbel, Mathieu Conquet, tous autour du plateau. Mathieu Conquet, la bouche pleine.
Pardon.
Il est délicieux ce bavot au curcuma. Non, non, franchement, c'est une tuerie absolue. Beaucoup, beaucoup de réactions se bousculent sur notre mail et depuis le bouton réagir sur l'appli mobile de France Inter, Antoine Gerbel.
Alors Lila nous pose cette question très importante aussi quand on parle du rhum. Merci de préciser également le revers de l'histoire et rappeler que la canne à sucre aux Antilles est liée à l'esclavage. Merci.
Absolument. Il y a d'ailleurs aussi, j'en profite pour donner la parole à Aline qui nous écrit sur Facebook, Aline de Grenoble. N'oublions pas que le rhum est aussi né d'une histoire dramatique, celle de la conquête des Antilles par les Occidentaux. Avec tous les dégâts qu'ils ont causés, la destruction des anciennes cultures des Amérindiens et des Indiens Caraïbes, l'esclavage, le commerce triangulaire, le code noir.
Oui, c'est vrai que tout est dit. D'ailleurs, c'est une grande partie du livre traite de l'histoire et notamment de la face sombre du rhum.
Et vous y consacrez une part très importante, hein, ouais. sans masquer aucune réalité historique, y compris les plus sombres.
Oui, oui, bah c'est vrai que le rhum est né de l'esclavage, on va dire. C'est-à-dire que, en tout cas, du colonialisme. C'est-à-dire, c'est les premiers Européens qui sont arrivés donc dans les Antilles, donc qui ont chassé ou massacré les Indiens Caraïbes. Ensuite, ils ont fait des plantations. À la base, c'était pour faire du sucre. Hein. C'était pas spécialement pour faire du rhum. Et pour faire du sucre, donc on a de la canne à sucre. Donc, ils ont planté la canne à sucre. Comme les conditions de vie étaient extrêmement difficiles et les conditions de travail aussi, donc ils ont fait venir des esclaves d'Afrique noire. Et donc, il y a des millions de gens qui ont travaillé dans ces plantations pour faire du sucre, mais aussi donc pour faire du rhum, parce que on faisait à l'époque surtout du rhum de mélasse, en tout cas de l'ancêtre du rhum de mélasse.
Très bien.
Donc voilà, ensuite ça rentrait dans le commerce triangulaire, effectivement, ouais. Donc on échangeait du rhum contre des esclaves, etc. C'était un espèce de cercle vicieux.
Absolument. Voilà. Il y a pas mal de maisons qui font d'ailleurs un travail mémoriel. Une maison, la fameuse maison Plantation, qui décide de se rebaptiser, par exemple, qui fait un rhum originaire à la fois de la Barbade, mais également, je crois, de la
Jamaïque aussi, ouais.
Et qui décide effectivement de sortir le mot Plantation, qui peut offenser certains consommateurs et qui a effectivement une connotation un peu sulfureuse.
Oui, c'est vrai que la Plantation, c'était l'endroit où il y avait le colon, sa famille, ses employés et évidemment les esclaves. Donc c'est un mot très connoté, effectivement, voilà. Alors après, aujourd'hui, les choses sont un peu plus apaisées, on va dire. Donc dans le milieu du rhum, c'est quand même, il y a une grande mixité. On va trouver des blancs, des noirs, on va trouver des femmes, on va trouver de tout, quoi. Hein. Par contre, c'est vrai encore aujourd'hui que le pouvoir économique, donc les gens qui sont aux manettes, c'est encore des descendants des colons, voilà. C'est une réalité.
C'est une réalité. Beaucoup de réactions, effectivement. Il y en a d'autres. Hein. On va vous donner la parole dans un instant, Antoine Gerbel. Revenons sur la perle rare. On finit juste avec la distillation, puisque la perle rare est le résultat d'une subtile distillation à cette habitation du Simon en Martinique. Alors une fois le jus de canne pressé, celui-ci est transporté sans délai dans les chais, et puis versé dans les cuves de fermentation où il va séjourner entre 3 et 5 jours. On obtient un jus de canne fermenté, une espèce de vin de canne qu'on appelle donc le
Vezou.
C'est ça, le Vezou, le Vezou. Là, c'est la matière première qui va rejoindre les alambics. Alors attention, opération distillation lancée, vous allez l'entendre à coup de cloche avec le maître distillateur de l'habitation du Simon, Joël Samos.
Il est 10h30, le rhum commence à couler. Donc je suis Joël Samos, je suis le maître distillateur. Là je suis à 80,
oui.
Impeccable. Là je suis à 90. Dans l'oignon je suis à 100. La vapeur va commencer à partir, ça monte dans l'oignon, ça passe dans le colocime, ça descend dans ce tuyau, mais en serpentin, pour refroidir dans cette cuve et pour obtenir le rhum ici.
Et là, ça coule par un petit tuyau en cuivre.
Oui. Comme parfois, on a du vent pour ne pas perdre de la colle. j'ai ajouté ce tuyau.
Les rhums de degrés supérieurs à 40 degrés. Oui,
on est à l'antenne, cher Antoine. Bah, vous aviez une question peut-être?
Ben oui, les coulisses de l'émission intéressent tout le monde. Une question de Laurent. Pourquoi est-il maintenant plus difficile de trouver en métropole des rhums avec des degrés d'alcool supérieurs à 40 degrés, mis à part l'Amonie, Naisson et Clément?
Oui, bah c'est pour adapter donc le goût du rhum au palais des Européens. Simplement.
Et puis une question sur pas mal de questions aussi sur ce que représentent les rhums français, à la fois en termes de quantité, mais également de qualité sur la scène mondiale du rhum. Alors, bonne réputation, malgré des volumes assez confidentiels?
Oui, en fait, les rhums français, c'est, on va dire, 3-4% des volumes. Par contre, au niveau de la qualité, donc ils sont reconnus comme des rhums très qualitatifs, qui gagnent des prix dans les concours, des médailles, etc. C'est vraiment des très bons rhums, quoi. Il n'y a pas photo.
S'il fallait recommander une ou deux maisons de Martinique ou de Guadeloupe?
On va dire Naisson, parce qu'ils sont en bio en Guadeloupe, Trois-Rivières, HSE, etc. C'était en Martinique.
Naisson, c'est en Martinique.
Oui, en Martinique. Et en Guadeloupe, on va dire Longueteau, Rémoninck. À La Réunion, Isotier. En Guadeloupe, on revient à Guadeloupe d'Amoiseau. Enfin voilà, il y en a plein qui sont super.
Herbousier aussi.
Voilà.
Il y a un petit carnet de dégustation de toute façon à retrouver en ligne sur franceinter.fr à la page où on va déguster. On passe au dessert avec Manon Fleury, un dessert évidemment en romais.
On va déguster sur France Inter.
Cher Manon Fleury.
Oui, donc moi je voulais vous parler de pâtisserie aujourd'hui parce que il y a beaucoup de pâtisseries françaises où la présence du rhum est franchement secondaire. J'ai moi-même mis des années à avaler un baba au rhum. On pense tout de suite à ce côté assez alcooleux, désagréable, qui vient en bouche et qui reste en bouche. Dans la pâtisserie française d'aujourd'hui, on cherche souvent donc à remplacer le rhum par autre chose. De l'eau de fleur d'oranger, du jus d'orange, des épices. Et pour moi, s'il y a bien une pâtisserie qui fait exception, c'est le cannelé. Le rhum joue un rôle essentiel dans sa composition. Je trouve que les parfums du rhum se mêlent bien au côté caramélisé de sa croûte. Et une croûte qui est déjà assez dure, qu'on peine presque à croquer. Et l'intérieur est très moelleux, humide, un peu spongieux.
Presque un peu chewing-gum.
Élastique, ça c'est super agréable. Et c'est le contraste vraiment entre cet extérieur croustillant et l'intérieur plus mou qui fait le charme de ce gâteau.
C'est une tuerie.
Oh, c'est fou.
On l'identifie tous comme une milliardise française qui accompagne le maintenant célèbre café gourmand. En réalité, on pourrait presque qualifier le cannelé de friandise d'outre-mer, car on y trouve du sucre qui longtemps est venu des Antilles, du rhum en provenance des Caraïbes et la vanille dont l'origine était souvent le Mexique. Ce qui est donc considéré comme la plus bordelaise des douceurs est en fait le résultat d'une association de produits venus d'ailleurs. Il faut savoir en fait qu'au XVIIIe siècle, comme vous le disiez tout à l'heure, la France était investie dans le commerce triangulaire et notamment Bordeaux, qui participait de manière active au commerce triangulaire et était le second port négrier français derrière Nantes. Le cannelé était alors appelé canolé et était confectionné par les religieuses du couvent Les Annonciades à Sainte-Eulalie en Gironde. On raconte qu'elle récupérait de la farine dans les cales des bateaux et ajoutait du jaune d'œuf et du lait pour réaliser en fait un petit gâteau dont la pâte mince était enroulée autour d'une tige de canne à sucre et frite au sein
d'eau. Incroyable, d'où la fameuse forme un peu cannelée.
Exactement.
Ça vient de la canne alors?
Ça vient de la canne, exactement. Donc la recette d'aujourd'hui a conservé les ingrédients de base originaux, mais évidemment sa forme et la méthode de cuisson sont bien différentes. Je vous avoue que pour ma consommation personnelle, je m'en remets pour la plupart du temps aux spécialistes français du cannelé, la maison Bayard-Dran, plusieurs
maisons bordelaises.
Exactement, et qui a plusieurs maisons en Aquitaine.
Non, moi je trouve les vôtres meilleures, mais enfin on va y revenir.
Ah oui.
Ça, c'est un conflit qu'il faut avoir avec eux.
Ah non, mais c'est clairement un compliment que je vous fais.
Et qui a ouvert récemment une boutique en ligne qui permet même aux Parisiens de s'offrir la milliardise bordelaise. Donc la recette de base est assez simple. En fait, elle ressemble un peu à une pâte à crêpes. Vous avez les proportions donc et le déroulé de la recette sur les sites de l'émission. Mais en fait, je vais plutôt vous parler des astuces et des tours de main qu'il faut mettre en œuvre parce qu'en fait, c'est une recette assez technique pour pouvoir réaliser la recette. Donc, il vous faut évidemment du lait, du beurre, de la farine, du sucre, des œufs, une pincée de sel et évidemment du rhum. Dans la recette classique, il y a de la vanille.
Mais
j'ai aussi voulu remplacer la vanille par du mélilo, qui est une plante qu'on trouve facilement en France. Moi, on la trouve dans la Drôme.
Et qui est moins chère aussi, hein. Je pense.
Qui est évidemment moins cher, et en fait, elle s'infuse tout à fait comme la vanille. Donc, c'est la même utilisation que la vanille. Quand vous faites bouillir votre lait, vous mettez votre mélilo à infuser dans le lait. Et après, vous réalisez donc votre appareil, vous faites bien attention d'incorporer le moins d'air possible. C'est vraiment le secret du cannelé et de l'appareil à cannelé. Donc, il vaut mieux utiliser une spatule qu'un fouet. Ensuite, vous faites reposer votre appareil au moins 24 heures au réfrigérateur. Et si vous pouvez même pousser jusqu'à 48 heures, c'est encore mieux. Donc, plus l'appareil repose, mieux c'est. Et ce temps de repos, il est indispensable parce qu'il permet une fermentation de l'appareil. Il permet à l'appareil de s'épaissir et au cannelé de ne pas retomber pendant la cuisson. Vraiment, l'effet soufflé, vous savez, qui retombe facilement. Le troisième élément important, c'est la question du moule. Donc, à savoir silicone, cuivre, aluminium. Le silicone, il est très facile d'usage et il est plutôt bon marché. Mais je vous avoue que moi, j'ai opté pour la solution du cuivre qui est plus onéreux. Donc, c'est vraiment assez cher, mais qui permet une meilleure caramélisation. Ensuite, vous beurrez votre moule. La question du beurrage, c'est aussi une question un peu technique du cannelé. Moi, à la maison, je vous conseille plutôt d'utiliser le classique beurre pommade qui est plus facile d'usage. Mm-hmm. Mais dans la recette classique, on mélange du beurre clarifié et de la cire d'abeille. C'est ce que j'ai fait et ça fait vraiment une vraie croûte autour du cannelé qui est assez agréable à la dégustation. Et ensuite, le surlendemain, vous coulez votre appareil dans les moules. Il faut faire très attention à ce que votre appareil soit à température ambiante. Donc, sortez-le un peu à l'avance avant de couler l'appareil dans vos moules. Et vous le cuisez donc en deux fois de cuisson, deux températures de cuisson, 180 degrés et 150 degrés, deux fois 30 minutes. L'idée, c'est que d'abord, le cannelé caramélise et ensuite, puisse avoir une cuisson. Voilà.
Superbe. Et on arrive à un résultat, mais absolument dingue. Félicitations. Manon Fleury, l'intégralité de votre recette pour faire des cannelés, mais parfait, avec une petite croûte à l'extérieur, un cœur bien fondant et moelleux, voire un peu élastique. Tout ça, c'est sur franceinter.fr à la page On va déguster. On n'a pas le temps, malheureusement, mais on va goûter juste après cette émission. Citez juste le rhum.
Un rhum cubain qui s'appelle Eminente et un rhum martiniquais avec finition en fût de sherry HSE de 2004.
Car, on l'a dit, le rhum est aussi un alcool vieux. À dimanche prochain, merci à tous. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.